I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On your mark.
Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par deux nouvelles médailles pour la délégation française en judo et en escrime encore. L'argent de Sarah Léonie Cizik en judo en moins de 57 kilos et le bronze de Manon Brunet en sabre. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des Jeux, Maxime Dupuis et Laurent Vergne sont à mes côtés. Salut messieurs, vous avez vibré aujourd'hui un peu ?
On a vibré, mais un peu moins qu'hier quand même. Si je devais classer cette journée au rang des journées depuis le début des JO, je la mettrais à la deuxième place. Parce que hier, il y avait cette émotion évidemment de l'or et il y avait ce France-États-Unis qui était venu terminer la journée en apothéose. Donc je dirais que sur l'échelle des Jeux, on est sur une journée moyenne.
Nous débuterons avec la belle histoire du jour en revenant sur le parcours de Manon Brunet, quatrième à Rio en 2016, qui est montée d'un cran cette année. On enchaînera avec le débat sur la natation avec notre consultant Alain Bernard. La question qui fâche, l'affiche à suivre mardi, l'heure olympique, c'est parti. La belle histoire du jour, elle concerne Manon Brunet qui a décroché la médaille de bronze au sabre individuel. Et pour en parler, on est toujours avec Laurent Vergne et Maxime Dupuis. On accueille notre consultante, une sabreuse en plus, Léonore Pérus. Léonore, tu as commenté la journée de Manon. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Ça fait plaisir. On sait qu'elle avait échoué à la quatrième place il y a 4 ans. Là, ça y est, c'est un bronze, c'est des médailles.
Ouais, l'émotion qui prévaut, c'est vraiment le bonheur et la joie de l'avoir accroché cette médaille de bronze. Manon, elle a eu une journée un peu contrastée avec des matchs un peu difficiles, puis des matchs qu'elle a survolés, puis une demi-finale où on l'a senti passer un peu à côté, et enfin une très belle demi-finale. Donc voilà, c'est plutôt de la joie et un peu de soulagement aussi, parce qu'elle avait vraiment le potentiel pour aller encore plus loin, mais on est très heureux.
Ouais, une demi-finale elle a pas vraiment existé. Ça a été dur. Il y a eu le spectre de 2016 qui est revenu. Et finalement, elle s'est ressaisie pour le bronze, Laurent.
Ouais, en 2016, ça avait été quand même une des meilleures performances en individuel d'abord de toute l'équipe de France d'escrime. Et elle était toute jeune, Manon Brunet. Donc, c'était évidemment, elle a été très déçue. Finir quatrième au jeu, c'est presque la pire place, même si sportivement, c'est beaucoup mieux que de se faire sortir au premier tour. Mais malgré tout, c'était annonciateur de quelque chose pour la suite de sa carrière. En revanche, aujourd'hui, si elle avait à nouveau échoué à la quatrième place, je pense que ça aurait été vraiment très, très, très dur à vivre pour elle. Faire 2x4 au jeu, c'est un petit peu dur quand même. Donc, elle a fait, après son quart de finale, c'est vrai qu'on s'est pris à rêver de quelque chose de plus grand encore, parce qu'elle a fait un quart de finale extraordinaire. Et puis, il y a eu cette demi qui était un petit peu plus difficile. Moi, j'ai une question pour Léonore. Après son quart, elle était quasiment en larmes déjà après sa victoire. Elle était très, très émue. Et ça m'a un petit peu surpris parce que je me suis dit, bon, elle est quand même qu'en demi-finale encore et on sentait qu'elle pouvait faire beaucoup mieux. Et comment tu expliques ça, cette émotion ? Est-ce que c'était en rapport avec ce match-là en particulier, cet adversaire ? Comment tu l'expliques ?
Bah, je l'explique pas trop. Moi, c'est vrai que j'ai été surprise aussi de l'avoir aussi émue. J'avais senti quand même qu'il y avait beaucoup de tension sur le match précédent. Elle a peut-être effectivement relâché aussi tout ce stress qui est présent, qu'on ressent beaucoup chez les escrimeurs français, je trouve, depuis le début de ces Jeux. Donc, je le mettrais plutôt sur ce compte-là. J'ai trouvé qu'elle entamait très bien son match de demi-finale. Elle est arrivée sur la piste avec un regard déterminé, le poing en l'air. Elle a bien enchaîné au démarrage. Et moi, la perception que j'en ai eue, c'est qu'il y a un moment, je ne sais pas si effectivement c'est le spectre de 2016 qui est arrivé autour de la cinquième ou sixième touche et qu'on l'a vu un peu se baisser en rythme, être complètement abattue au moment de la pause. La discussion avec son entraîneur est assez surréaliste alors qu'elle n'a que 2 touches de retard. Et en fait, ouais, y a eu une sorte de basculement que je mettrais moi plutôt en, en début de première manche, enfin en milieu de première manche. Voilà, donc, mais c'est vrai que cette émotion était surprenante, mais j'aurais tendance à la mettre sur le compte du stress et de l'enjeu de l'événement plutôt que d'un relâchement prématuré.
Ce qui est chouette dans cette histoire, c'est toute la globalité, c'est 2016 en effet, et ce spectre qui revient donc après la demi-finale. Et j'ai vu qu'elle avait expliqué après la demi-finale, qu'elle disait « je suis complètement foiré, je ne vais pas y arriver ». Et là, elle explique quelque chose qui est toujours très sympa, parce que nous, on ne voit pas ça. C'est-à-dire que là, c'est sur une épreuve individuelle, mais elle explique « tout le monde m'a remotivé ». Donc, c'est marrant aussi ce côté très collectif et justement cet esprit d'équipe qui est assez formidable, parce que justement, c'est, j'allais dire, une pour tous, tous pour une, mais c'est un peu ça finalement. C'est les autres aussi qui l'ont aidé à trouver cette énergie.
Et même les fleurettistes, hein, on a même vu les fleurettistes venir à la fin après son match pour la troisième place, victorieux pour le bronze. Les fleurettistes qui avaient fini leur compétition, qui sont venus pour la féliciter. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, il y a autre chose avec Manon Brunet, c'est que bon, il y avait Rio, mais elle a aussi connu une préparation très, très difficile. Elle a eu une blessure assez sérieuse aux adducteurs l'année dernière qu'elle a traînée pendant des mois. Et elle a expliqué qu'elle a vraiment débuté assez tardivement sa préparation pour ces Jeux de 2020 en 2021. Donc, c'était pas évident pour elle à tout point de vue. Et je trouve que c'est vraiment chouette que ça se termine comme ça. Et puis, c'est bien pour l'équipe de France d'escrime aussi quand même. Là, c'était la fin des épreuves individuelles. Alors oui, il y a eu des déceptions. C'est vrai qu'évidemment, on aurait aimé que des Yannick Borel, des Enzo Lefort ou les fleurettistes chez les filles, moi, sur qui je comptais beaucoup, aillent chercher des médailles. Mais une médaille d'or, une médaille de bronze dans un contexte qui est, il faut le rappeler, vraiment très, très concurrentiel. C'est plus l'escrime des années 80 qui concernait 4-5 pays européens. C'est un sport international aujourd'hui. Donc c'est pour moi un bilan qui est pour l'instant pas extraordinaire, mais deux médailles, dont un titre, et qui est quand même, pour l'instant, il faut le rappeler, le seul du sport français à Tokyo. Avec les épreuves par équipe, où en général, les Français sont très, très compétitifs. Bon, pour l'instant, les escrimeurs, même avec certaines déceptions, sont vraiment dans les temps par rapport aux objectifs qui avaient été fixés.
Oui, tout à fait. Sur ce que vous venez d'évoquer, l'aspect collectif, c'est vraiment une dimension. Alors déjà, dans ce groupe de sabre féminin, il y a une émulation très forte depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de podiums en Coupe du Monde, en Championnat d'Europe, en Championnat du Monde. Il y a vraiment ce groupe qui se tire vers le haut et qui arrive vraiment à avancer ensemble, et c'est très fort. Et les échos que j'ai eus aussi du stage de préparation, j'ai échangé avec Astrid Buillard sur la manière dont ça s'était passé, c'est aussi qu'il y a une très, très grande solidarité. Ils ont passé un très bon stage au pied du Mont Fuji avant d'arriver au village olympique, et ça m'étonne pas qu'on retrouve voilà ce groupe solidaire pour entourer Manon, pour la remobiliser pour sa médaille de bronze, que ce soit au niveau de ses coéquipières, mais aussi au niveau de l'ensemble du groupe. Et je te rejoins, Laurent, sur le fait qu'on n'est plus effectivement sur une ultra domination d'une nation. Après, moi j'avais quand même j'étais un peu gênée par certaines attitudes corporelles de nos escrimeurs, où je pense qu'ils avaient plus de choses à défendre pour certains. Et c'est bien que Manon aussi, même sur une journée qui était... Alors, son quart de finale, elle l'a survolée, mais le reste, c'était quand même une journée où il y a eu des moments un peu difficiles au démarrage, d'aller se battre et d'aller décrocher ça. Et je pense qu'effectivement, ça augure de bonnes choses pour les épreuves par équipe. Si ce collectif est si soudé, on devrait voir aussi de beaux résultats ensuite.
C'est marrant ce que tu dis, Léonore, parce que Romain Canon, hier, a dit que lui, il avait trouvé, et il ne parlait pas que de l'équipe de France d'ailleurs, que tout au long de la journée, il avait senti qu'il y avait beaucoup de tireurs qui étaient très stressés, très tendus. Alors, je ne sais pas, évidemment, c'est les Jeux, et lui, en revanche, qui n'était pas très attendu, il était hyper serein, il a déroulé son escrime tout au long du tournoi. Alors, évidemment, c'est les Jeux, peut-être aussi qu'il y a ce contexte quand même qui a été très particulier depuis un an et demi, qui fait que certains n'ont pas les mêmes repères peut-être qu'en d'autres années olympiques, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'il avait souligné, Romain, hier, et qu'on a retrouvé chez beaucoup, beaucoup de tireurs.
Ouais. Espérons que, ouais, qu'il y ait moins de tension sur les épreuves par équipe qui vont commencer dès demain, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Voilà, on suivra ça avec toi.
L'épée d'âme,
évidemment.
Donc, sans les Français demain.
Ouais. Ouais, on attendra le surlendemain pour poursuivre tout ça. Merci, merci Léonore. On suit tout ça, on suit tes commentaires sur Eurosport tous les jours. Et puis nous, on enchaîne avec le débat. Le débat du jour concerne la natation et pour en parler, on va accueillir notre consultant Alain Bernard, évidemment. Alors, de quoi on va parler ? Du 4x100 qui a eu lieu la nuit dernière et puis on se projettera également sur les séries du 100 mètres qui débutent la nuit prochaine. Alain, déjà, le 4x100, la médaille d'or des États-Unis, qu'est-ce que tu as retenu ? Est-ce qu'elle t'a fait plaisir cette course ? On rappelle les Français qui terminent malheureusement seulement à la 6e place, mais les États-Unis sur le toit du monde.
Oui, les États-Unis sur le toit du monde, une fois de plus, ils dominent cette discipline. Quand même, il y a que trois nations en fait dans l'histoire qui l'ont battue en fait depuis que cette course existe. C'est une belle surprise aussi pour les Italiens qui arrivent à monter sur la deuxième marche du podium. Et l'Australie, on les pensait un petit peu meilleurs, mais ils arrivent quand même en troisième position. En tout cas, on a eu un lancement des États-Unis avec Caleb Dressel qui a répondu aux attentes. Il a nagé 47-26. Il a emmené Maxime Grousset, qui était notre premier relayeur français, en 47-52. Donc, il fait son meilleur temps, vraiment super chrono dans ces conditions de finale olympique. Et on a hâte de voir ce qu'ils vont donner en individuel. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire, la hiérarchie, globalement, elle est respectée. Les Américains ont été beaucoup plus forts. En fait, ça s'est joué à la bagarre, à pas grand-chose derrière. Et la France obtient une sixième place. Donc, la première fois qu'elle n'est plus médaillée olympique depuis 2008. Voilà, j'ai envie de dire, ça fait une petite césure, une petite cassure avec Clément Mignon et Mehdi Metella qui ont été un petit peu plus en retrait. Florent Manodou a assumé son statut, il a nagé en deuxième position et on a senti que c'était dur sur la fin, mais il s'est employé pleinement. Il a pris apparemment à en lire les articles, en fait il a pris beaucoup de plaisir dans ce relais.
Ouais, tu parlais de Maxime Grousset qui a fait un super départ, hein. C'est prometteur. Alors certes, effectivement, on n'est plus sur le podium. Laurent, tu as suivi, hein, et tu me disais en préparant cette émission, là on a un bon quoi.
Oui, après pour l'équipe de France, on savait quand même qu'au niveau du 4x100, effectivement, après l'ère glorieuse qui va de Pékin jusqu'à Rio, trois médailles d'argent, et en étant parfois pas loin, voire tout près de la médaille d'or, Alain le sait encore mieux que nous, on savait que ça marquait la fin de quelque chose. Donc c'est un relais qui est en reconstruction. Il y a eu ces championnats du monde il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, où les Bleus n'étaient même pas présents. Relais s'est reconstruit, il a retrouvé la finale mondiale lors des derniers championnats du monde. Donc, le fait de les avoir retrouvés en finale aujourd'hui à Tokyo, c'est quand même la confirmation que la reconstruction est en marche. Après, je pense que le podium aurait vraiment relevé de l'exploit, même si c'est vrai que le premier relais a pu laisser entrevoir ça, et il ouvre des perspectives assez sympathiques pour la suite, et notamment pour le 100 mètres, pour Grousset, on va en parler un petit peu après. Mais je crois que pour moi, la seule petite surprise, effectivement, c'était de ne pas trouver les Australiens à la deuxième place derrière les Américains. Mais en fait, derrière les Américains, c'était finalement assez ouvert.
Et ça s'est joué à rien, ça s'est joué à 11 centièmes, hein, entre l'Italie et l'Australie.
Oui, c'est ça. Les Américains étaient dans leur propre course. C'est pas comme certaines éditions où on avait pu voir où les Australiens ou les Français qui les bousculaient vraiment. Là, il y avait pas photo. Et derrière, je pense que l'équipe de France est à peu près à sa place. Cinquième, sixième, c'était ce qu'elle pouvait vraiment espérer, je pense.
Oui, alors je pense que la hiérarchie a été respectée. Après, je suis agréablement surpris qu'on soit derrière les Canadiens, derrière les Hongrois. Il faut savoir que Brent Hayden, en fait, qui a été co-champion du monde en 2007, hein, c'était au championnat du monde de Melbourne en 2007. Brent Hayden, il a le même âge que moi. Il a 38 ans. Il a lancé le relais canadien en 47-99. Voilà, après, je crois, 7 ans d'arrêt de carrière, il s'est lancé le défi de revenir à la natation, de s'entraîner. Il s'est qualifié dans ce relais olympique. Donc, franchement, pour ce baroud d'honneur, c'est juste exceptionnel. Les Canadiens qui ont une prise de relais à 0 centième sur leur troisième relayeur, ça s'est joué à pas grand-chose pour une disqualification. Mais pour rebondir sur l'équipe d'Australie, en fait, il n'y avait pas McEvoy en fait dans le relais parce qu'il n'a pas bien nagé les séries, et je pense que le staff australien a décidé de ne pas l'aligner en fait dans la finale. Et c'est Kyle Chalmers en fait qui est allé chercher justement de la cinquième à la troisième place en nageant 46-44, l'un des meilleurs temps, les plus rapides lancés de l'histoire en fait sur un 100 mètres nage libre, qui va offrir une belle médaille à l'Australie. Et par contre, ce qui est respecté, je trouve, ceux qui ont été le plus réguliers, c'est l'Italie. avec un beau lancement aussi d'Alessandro Mirisi qui nage 47-72. Vraiment très belle médaille d'argent de l'Italie. On est, nous, la France, je pense, à notre niveau, malheureusement, parce qu'on a manqué de régularité, de visibilité, d'expérience ces deux dernières années sur les championnats internationaux. Je pense que Florent est nagé 47-62. Il n'a pas du tout démérité. On a senti que ça a été très dur pour lui sur la fin, mais il a vraiment nagé avec le cœur, encore une fois.
Le bon point, finalement, il est très, très individuel. On va faire le lien sûrement avec le 100 mètres et Maxime Grousset. 47-52. Moi, j'ai envie de te demander, Alain, combien ça peut peser justement dans la confiance d'un nageur de réussir comme ça parfaitement son entrée en lice dans les Jeux Olympiques en vue de la grande épreuve qui commence demain, les séries du 100 mètres nage libre. Est-ce que il y a quelque chose qui peut se créer mentalement? Alors, il n'y a sûrement pas besoin de déclic, mais quelque chose qui dit là, je suis chaud, ça peut le faire, je bats mon meilleur temps ce jour-là. Est-ce que ça peut donner des choses pour le 100 mètres nage libre?
Oui, ça promet vraiment de très belles choses parce que Maxime Grousset, en fait, ces derniers mois, à chaque fois qu'il plonge, il fait quasiment son meilleur temps. Donc ça, c'est extrêmement encourageant et il doit être plein de confiance, même si je pense qu'ils auraient tous aimé mettre un pied sur la boîte. En fait, ils en sont loin et pas loin en même temps parce que le podium est à 3-10-22. Eux, ils nagent 3-11-09, donc on est à moins de 9 dixièmes. Néanmoins, 9 dixièmes à cette vitesse-là, ça va très vite, c'est 1m80. Mais 47-52, c'est une très belle performance pour Maxime. Par contre, il faut vraiment rester vigilant. Il a fait 47-52, où il a été emmené le premier 50 mètres par un Caleb Dressel qui est passé 22-2 au virage. Il est passé 22-2. Maxime s'est collé à sa ligne d'eau directement après le plongeon. Il a sûrement été aidé en fait, dans ce premier 50 mètres qui lui a permis d'avoir beaucoup d'énergie sur la fin pour venir toucher 2-3 dixièmes derrière Caleb Dressel. Je ne sais pas s'il en est réellement conscient, mais voilà, chaque seconde de ton temps, c'est une performance qui a été faite dans le cadre d'une finale olympique. Ça, c'est super pour Maxime. C'est vraiment valorisant. Attention à ce que cette performance, elle ne soit pas faussée par ce premier 50 mètres où il a été emmené. Et il faudra qu'il ait énormément d'ambition, de courage, une mise en place très efficace sur le premier 50 mètres dans sa course individuelle, parce que là, pour le coup, il ne sera peut-être pas à côté des meilleurs nageurs.
Et il est quand même à côté. Hein. Il est à côté de Kyle Chalmers. Donc, est-ce que là aussi, Maxime Grousset, dans la série 7, il peut être justement... La série 8, pardon, est-ce qu'il peut aussi être emmené par l'Australien? Ça peut l'aider, non?
Justement, il ne peut pas parce que Kyle Chalmers ne part pas très vite. Il a un profil de course en fait où il revient extrêmement fort, Kyle Chalmers, mais il passe en moyenne entre 22-5, 22-7. Et en fait, c'est toujours un peu plus rapide que ce qu'est capable de partir Maxime, mais il ne sera pas emmené de la même façon sur cette série. Alors, j'espère vraiment me tromper là-dedans sur ce pronostic, mais il va vraiment falloir que Maxime prenne les devants
dès sa série. S'accroche après au retour, qui s'accroche sur le retour.
C'est ça, mais je pense que tout le monde s'accroche. Et le 100 mètres, c'est un effort très violent. Ce qui est bien, c'est qu'il a deux courses dans les jambes, Maxime. Il va arriver avec des repères en fait sur cette série. On a vu une équipe de Russie décevante en fait, parce qu'on les attendait à un meilleur niveau que cela. Je crois qu'ils terminent en
7e position. Ouais.
Voilà, il termine, mais à quasiment une seconde derrière, avec un Morozov qui nage 48-15, donc qui est très décevant en fait par rapport à ce qu'il a déjà fait. Il a déjà nagé 47-4 ou 47-3 au start, je crois, et 48-4 pour Kliment Kolesnikov, qui avait certes le 100 mètres d'eau dans les jambes, mais extrêmement décevant par rapport à son 47-3 qu'il a fait cette année.
Kolesnikov qui sera dans la série de Mehdi Metella. Laurent, les deux Français qui demain ont une carte à jouer sur les séries du 100 mètres.
Sur les séries, oui. Après,
évidemment.
La question, c'est de savoir jusqu'où ça peut les emmener. Si Maxime Grousset nage dans les temps de ce qu'il a pu faire là, il sera en finale. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va pouvoir le faire, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner aussi. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu comme le relais, hein, derrière Caleb Dressel, qui sera le grand favori de ce 100 mètres. Derrière, pour tout un tas de raisons, ça paraît assez ouvert. Donc, il y a peut-être des coups à jouer, des places à prendre. Maintenant, exiger une médaille de nos Français sur la distance reine, c'est peut-être un petit peu tôt. Même si c'est pas impossible, mais ce sera dur quand même.
Moi, je pense que c'est très ambitieux aussi. Il y a quand même une performance qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est qu'il y a, il y aura aussi Zach Apple qui sera entre, dans la série de Mehdi et de Kliman Kolesnikov. Et il a nagé 46-69 aussi. Donc, il est en forme, l'autre Américain, sur le 100 mètres. On a vu déjà une Marie Vatel, je reviens, on s'en met papillon sur sa première finale, sa première chance. Elle a fait une superbe course pour se qualifier avec le deuxième temps et le niveau s'est élevé en fait en finale. Là, on n'a pas de Français avec une position de favori ou même d'outsider pour aller chercher un podium. Et encore une fois, j'espère du fond du cœur me tromper en disant ça, mais je pense que ce serait un peu prématuré de rêver à une médaille olympique sur le 100 mètres nage pour nos Français. Mais j'ai envie d'y croire en même temps. J'ai envie d'y croire parce que voilà, s'ils arrivent à passer le cap des séries, des demi-finales, aussi bien, alors Mehdi, il est peut-être un peu moins régulier que Maxime. Il est capable de sortir une grande course le jour J, même s'il aura l'autre épreuve avec le 100 mètres papillon. Mais Maxime est très régulier. Et je pense que le chrono qu'il va faire dans les séries va être déterminant en fait pour la suite de la phase des demi-finales et des finales.
Eh bien, écoute, ça sera à suivre en tout cas sur Eurosport avec tes commentaires à partir de 12h02 mardi, si je ne me trompe pas. Donc, série 7 avec Mehdi Metella, série 8 avec Maxime Grousset et série 9 avec Caleb Dressel, qu'on suivra quand même d'un œil parce que la razzia de l'Américain, c'est toujours impressionnant à suivre. Merci Alain.
Et merci. Juste un tout petit mot. Ouais, on a oublié, mais quand même, c'est un outsider, mais plus qu'un outsider, il tient son rang. Il a très bien nagé sur 200 mètres nage. C'est le phénomène David Popovici, un jeune Roumain de 16 ans qui a nagé 47-30 il y a quelques jours à peine au championnat d'Europe junior. Il a écrasé la concurrence de sa catégorie d'âge. Il a très bien nagé sur 200 mètres. Voilà, je pense que c'est un garçon qu'il va falloir suivre pour savoir si il va arriver à peut-être à s'imposer, à faire sa place dans cette bagarre du 100 mètres nage. Voilà, c'était le petit clin d'œil.
Eh bien, écoute, tu as bien fait de le dire et on le suivra particulièrement. On passe à la séquence suivante, messieurs, si vous le voulez bien. La question qui fâche aujourd'hui, et on va se poser cette question, qu'attendent les autres sports pour gagner des médailles depuis le début de la compétition? C'est surtout le judo et l'escrime qui rapportent des médailles. Alors, messieurs, qui est-ce qui peut nous aider dans les prochains jours? Laurent,
je me permets de te, j'aime pas faire ça, mais de te corriger. C'est pas surtout le judo et l'escrime pour l'instant qui rapportent des médailles.
C'est vrai.
C'est uniquement le judo et l'escrime. 5 médailles, 3 pour le judo, 2 pour l'escrime. Et l'escrime, pour l'instant, a apporté l'unique médaille d'or. Donc, oui, effectivement, il serait temps que. Alors, d'un côté, c'est pas très surprenant. Ce sont deux sports dans lesquels l'équipe de France olympique est à la fois des têtes d'affiche, de la réserve, de multiples chances de médailles. Donc, c'est entre guillemets normal que ces deux sports contribuent. En revanche, qu'ils soient les seuls, c'est un petit peu plus embêtant pour l'instant. Donc, ce qui est sûr, c'est que si la délégation olympique veut atteindre l'objectif, il n'y a pas eu d'objectif ultra précis, mais en gros,
une quarantaine de médailles.
On est autour d'une quarantaine de médailles pour être dans les eaux de ce qui a été fait, notamment à Rio, parce qu'on le sait, les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Paris et ils auront lieu dans 3 ans seulement à Paris, donc ça va venir très vite. Et s'il devait y avoir un recul important en nombre et de podiums et de titres, ce serait quand même pas un très très bon signal avant l'échéance parisienne, même si ça n'impactera pas forcément ce qui se passera dans 3 ans. Donc, pour arriver à cette quarantaine de médailles, il faudra évidemment que les sports majeurs de l'équipe de France olympique répondent présents. Pour l'instant, quasiment les deux principaux sont en train de le faire, mais il faudra qu'il y ait aussi des têtes d'affiche à côté qui tiennent leur rang. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait eu de gigantesques opportunités de titres olympiques qui ont viré au fiasco. Ou s'il y en a eu, il y a eu des déceptions. Par exemple, si je prends Yannick Borel en escrime, il était sinon attendu comme une médaille d'or, en tout cas, c'était une vraie chance de titre olympique. Mais finalement, la France a quand même eu une médaille d'or dans cette épreuve. Donc, on ne peut pas parler de... En tout cas, ça pénalise en rien le total de médailles. Après, il y avait quand même plusieurs épreuves où on pouvait espérer des médailles. Il y avait des chances, je pense par exemple à la course masculine en VTT lundi matin, où les Français font 5e et 9e, donc c'est pas un naufrage, mais il ne faudra pas qu'il y ait quand même une trop grande répétition de ce type d'événement où, sans être ultra favori, les Français font partie des prétendants au podium, clairement, et où à l'arrivée, ça fait 4, 5, 6, 8. Lundi, il y a eu 2 médailles, une en judo, une en escrime, mais il y a eu beaucoup d'autres chances de médailles, beaucoup d'autres possibilités, et il y a eu beaucoup de résultats entre la 4e et la 8e place. Alors, tout ne se vaut pas, la 4e place en double mixte en tennis de table, pour le coup, la paire française est vraiment à sa place et c'est une très belle performance. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus décevants. Donc, encore une fois, ce sont des performances sportives qui ne sont pas négligeables. Malheureusement, les Jeux, c'est un peu bête et méchant dans le décompte. Entre la 3e et la 4e place mondiale, puisqu'on est sur un événement mondial, on passe presque de tout à rien, quoi. Donc ça ne pardonne pas, et pour l'instant il n'y a pas encore le feu, mais on va avoir besoin que le compteur soit alimenté très vite par d'autres disciplines.
On aimerait que ça tombe du bon côté, hein. On est d'accord, mais, Maxime.
Il faut rappeler que pour Paris, l'objectif, alors c'est en 3 ans, c'est autour de 80 médailles quand même. Donc imaginez combien il faudra en engranger dès le début. Oui, en fait c'est des débuts de Jeux Olympiques assez bizarres, je trouve, parce que comme le dit Laurent, c'est les sports habituels qui ramènent les médailles, mais c'est pas les personnes qu'on attendait forcément, en gros, pour faire simple. C'est pas les favoris, c'est deux belles histoires qu'on a eues, comme Canon hier, des belles histoires qui ont compensé. Mais il manque en effet ces sports-là, les fameux sports qu'on découvre entre guillemets tous les 4 ans, un Jean-Pierre Amat, un ceci, un cela, du tir. On parlait du skate, on aurait pu avoir quelque chose en skate, on n'a rien eu. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça tourne pas du bon côté, et c'est vrai que même si l'objectif est pas très clair des 40 médailles, on sait que c'est à peu près ça. Depuis Barcelone 92, on est à 29 médailles minimum. Je crois qu'on avait un petit recul à Londres, on devait être autour de 35, mais généralement, on est toujours autour de 40 médailles, et c'est vrai que ça ferait un peu bizarre d'être en dessous. Donc, il va falloir en effet démarrer assez vite, parce qu'on sait aussi que généralement, même si on a beaucoup d'équipes de France qualifiées en sport collectif, c'est la première semaine qui est la plus pourvoyeuse en médailles. Donc déjà, samedi, dimanche, on aura une petite idée de vers où on va. Donc, il va falloir démarrer. Et je pense que ça nous permettra aussi de parler de deuxième sujet. La journée de demain peut être une petite bascule, et notamment autour des grands favoris. C'est-à-dire que les têtes d'affiche, les attendus, on a envie de les voir commencer à gagner pour entraîner tout le monde dans le sillage. Et ça tombe bien, demain, il y a le VTT. Il y a le judo avec 2, voire 3. Alors, il n'y a qu'une médaille pour 2 en VTT, mais on a 2 immenses sportives en VTT et en judo. Et ce serait bien justement que la machine démarre là et d'avoir ces petites médailles, comme Laurent disait, à côté, qu'on ne voit pas forcément venir, parce que c'est des sports qu'on suit moins, mais qui aident évidemment, parce que le décompte, une médaille vaut une médaille, et pour arriver à 40, on ne peut pas seulement compter sur l'escrime ou sur le judo.
Après, il ne faut pas oublier quand même, je me souviens qu'à Rio, après, la France n'avait pas eu de médaille le premier jour, enfin, ce que j'appelle le premier jour, le premier jour où il y a des médailles en jeu, donc le lendemain de la cérémonie d'ouverture, qui était également un vendredi. Pas de médaille le vendredi, le samedi. Une médaille en argent le dimanche soir avec le relais 4x100. Et il me semble que le lundi soir, après 3 jours de compétition, je suis même quasiment sûr, on était à moins de 5 médailles. Et puis, d'un seul coup, il me semble que c'était le mardi, il y avait eu cette journée un peu folle où la France avait ramassé énormément de médailles, dont 3 titres. Donc, c'est souvent comme ça, les Jeux. Il y a des journées où rien ne semble aller dans votre sens. Quand je dis votre, c'est au sens large de la délégation. Et puis, il y a des jours où tout réussit. Donc, moi, je ne suis pas inquiet plus que ça.
Alors, si on se penche un petit peu sur les chances de médailles, Maxime, t'en parlais, on en parlera un peu plus dans le détail dans la dernière partie sur le judo et Clarissa Gbenyenou. Tu parlais du VTT cross-country.
Demain, on peut espérer, si ça rigole, avoir 2 médailles d'or.
Dans une en judo.
Dans une en judo, voilà. Et il y aura le VTT, au moins, ça ouvrira. Ouais. Et puis après, jeudi, on a l'aviron. Androdias Boucheron, ils ont été très bien en demi-finale.
Il y a des médailles qui se construisent. Charline Picon, pour l'instant, elle n'a rien. Mais à mi-parcours de ses épreuves, elle est en tête. Donc, ça se termine jeudi. Peut-être que jeudi, il y aura une médaille d'or qui arrivera. C'est possible. Donc, mais effectivement, Maxime a raison. C'est à la fin de la première semaine. Il faut impérativement que l'équipe de France ait fait entre la moitié et les 2/3 de son quota de médailles. Sinon,
ça sera compliqué, parce que pas après. En 2016, on a la boxe qui nous porte, qui nous aide. Voilà, c'est vrai qu'en deuxième, notre chance sur la deuxième semaine, c'est d'avoir énormément d'équipes de France de sport co qualifiées. Alors les footballeurs, faut oublier a priori.
Mais ça rapporte peu de médailles.
Ça rapporte peu de médailles. Voilà. D'ailleurs, je serais pour la multiplication par les joueurs. Voilà. Ça serait quand même plutôt pas mal. Mais non, mais c'est vrai. On a vu le basket. Il faut se méfier. Mais ils ont battu les États-Unis. Donc potentiellement les deux équipes de hand, pourquoi pas. La boxe.
Le volley.
Le volley peut-être un peu moins, mais tout ça. Et puis évidemment, il y a toujours l'athlétisme, les Maillers, la Villeni. Ça sera peut-être dur avec la cheville, mais voilà.
Samir Itzaïd, qu'on ne peut pas oublier non plus, qui en finale, il sera le 2 août, si je me souviens bien.
Oui, exactement. Bah, Mélanie de Jésus de Santos, au cours général en fin de semaine. Bon, c'est toujours pareil. Il faut que ça commence à rigoler. Et Laurent a raison. Il faut qu'il y ait cette journée un peu folle où, cauchemar du journaliste, ça tombe dans tous les sens, mais bonheur de, à la fin de la journée de voir qu'il y a des médailles dans tous les sens et que le tableau des médailles, enfin le rang de l'équipe de France, a augmenté. Cela, je crois qu'on est au 10e rang.
10e rang avec 5 médailles, hein, au soir de la journée de lundi.
On est en dessous.
Oui. Bon, écoutez, on va voir ça, on va suivre ça avec attention. On va se pencher sur une des vraies prétendantes à la médaille dans la dernière partie, l'affiche du jour, avec l'entrée en lice de Clarisse Agbegnénou en judo. L'affiche du jour concerne donc Clarisse Agbegnénou qui va faire son entrée en lice mardi en judo. Clarisse Agbegnénou, c'est le seul titre qui lui manque à son palmarès, l'or olympique. On se rappelle qu'elle avait terminé deuxième à Rio. Pour en parler, on accueille notre spécialiste de la rédaction en judo, Stéphane Vrignot. Salut Stéphane. Clarisse qui entrera demain à 5h37 en 16e de finale. Elle est attendue, on est d'accord ?
Oui, tout à fait. Tu l'as dit, Adrien, il ne manque plus que ce titre olympique. Pour l'instant, elle n'a pas le plus beau palmarès parce qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas été consacrée aux Jeux olympiques. Elle avait terminé deuxième à Rio en 2016. Donc, c'est le titre le plus évident. C'est celui qu'on attend. Et en même temps, c'est le piège, quelque part. Je me souviens que pour Lucie Descosses, qui avait été un petit peu volée sur une décision d'arbitrage contestable à Pékin en 2008, en finale, avait réussi, 4 ans plus tard, à obtenir ce titre qui était une évidence en fait pour tout le monde. Mais l'Arbi Ben Boudaoud, qui avait été deuxième au jeu en 2000, s'était fait éliminer dès son premier combat 4 ans plus tard. Donc, c'est toute la difficulté vraiment d'être là, d'être présente le jour J. Mais c'est ce qu'elle sait faire. Elle est championne du monde en titre. Il n'y a pas de problème. Elle a choisi de ne pas se cacher. Elle est allée aux Mondiaux. Donc, elle est prête. Elle est prête pour ce titre. Elle savait qu'elle avait rendez-vous avec... Elle sait qu'elle a rendez-vous avec ce mardi. Donc, je pense qu'elle sera dans son élément. Elle aura un combat de moins. C'est la seule en plus dans son tableau. Tout se présente bien. Et elle a ses adversaires principaux qui sont dans l'autre partie du tableau. Donc, elle ne pourra rencontrer qu'en finale.
Maxime, Laurent, on est confiant sur les chances de Clarisse ?
Ah, on a envie, oui. Et ça fait le lien avec le premier sujet. C'est-à-dire qu'on a très envie d'avoir un leader de l'équipe de France qui casse tout sur son passage. On sait qu'elle a longtemps, même toujours... en travers de la gorge, sa défaite en 2016, en finale. Elle a mal vécu aussi le report des JO d'une année parce que ça l'a retardée, on va dire, dans sa quête ultime qui est vraiment celle-ci. Voilà, Stéphane le dit, elle a tout gagné. C'est un peu comme un footballeur qui gagne la Ligue des Champions tous les ans et qui vise la Coupe du Monde l'année d'après. Bah, elle, c'est sa Coupe du Monde demain. C'est ce gros titre qui change tout et qui vous fait rentrer dans une sphère encore plus grande. Donc, oui, j'ai envie de dire qu'on est confiant. Stéphane a parlé du tableau. C'est sûr que ça aide. Au moins, ça permet de ne pas démarrer par des tours piégeux. Et puis voilà, on a envie d'être confiant. Voilà, tout simplement, on a envie de se dire que ça va fonctionner. C'est une star du judo français. Il faut que ça aille au bout maintenant, tout simplement.
Notre porte-drapeau, on a envie de la voir lever les bras. Elle viendrait un petit peu poursuivre cette tradition. Alors, ce n'est pas toujours été le cas, mais les porte-drapeaux qui, derrière, viennent...
Ça a même été un fardeau. Une sorte de porte-poisse. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on parlait avant les Jeux de ces athlètes qui... Il y a des athlètes qui viennent aux Jeux en espérant avoir une médaille, et puis il y a les athlètes qui viennent aux Jeux pour être champion olympique, et pour qui tout autre résultat qu'une médaille d'or est une forme d'échec. Et Clarisse, en France, il n'y en a pas 150 des comme ça. Il y en a peut-être entre 5 et 10, mais... pas plus. Et Clarisse Agbegnénou, elle en fait partie. Elle en fait partie à double titre, d'abord parce que moi, je me souviens de Clarisse Agbegnénou en 2016, après sa défaite en finale. Sa médaille d'argent, je pense que si elle avait pu se dispenser d'aller la chercher sur le podium, elle l'aurait fait. Peut-être qu'après, avec le recul, comme toujours, elle s'est dit, c'est quand même une médaille d'argent. Mais pour elle, c'était vraiment une énorme déception. Mais depuis Rio, en 5 ans, elle est invaincue en grand championnat international. Elle a été 4 fois championne du monde et je crois 3 ou 4 fois championne d'Europe. Elle n'a pas été battue dans un grand rendez-vous depuis cette défaite en finale des Jeux de Rio. Donc, vraiment, si demain, si mardi, elle n'était pas championne olympique, je pense que c'est pas notre regard qui compte, c'est pas nous qui, à nous de dire que ce sera un échec. Mais je pense que elle le vivrait comme ça. Qu'elle ait une médaille d'argent, une médaille de bronze ou qu'elle perde dès son premier combat, je pense que le ressenti sera exactement le même pour elle. Et c'est une journée qui vraiment, je pense, peut changer. Sinon sa vie, en tout cas sa place dans l'histoire du sport français, parce qu'elle possède aujourd'hui un palmarès phénoménal. C'est une immense championne, mais elle est dans un sport où le titre olympique écrase un peu tout. En tout cas, il y a voilà, je ne sais pas si on peut faire des rapports de force, mais à mon avis, si vous demandez à Clarisse Agbegnénou de rendre 2 ou 3 titres mondiaux pour une médaille d'or mardi à Tokyo, elle le fera sans problème. Donc, elle en a d'une certaine manière besoin. Et je n'ai pas envie de parler de mérite parce que voilà, c'est une compétition, il faudra gagner, point barre. Mais en tout cas, la championne qu'elle est mériterait de finir sa carrière un jour, pas demain, avec ce titre olympique. Donc vraiment, ça peut être son jour et ça doit être son jour. Mais elle va avoir quand même, je pense, une pression énorme sur les épaules. Pas celle qu'on lui met, mais celle qu'elle, elle se met depuis des années parce qu'elle sait qu'elle peut et presque qu'elle doit être championne olympique.
Stéphane, tu parlais de ses adversaires. Est-ce que tu as 2-3 noms que nous, on a envie de surveiller principalement ?
Il y a 2 adversaires à redouter. Forcément, la Slovène Terstenia, qui l'avait battue en finale des Mondiaux en 2015 et qui l'avait battue aussi à Rio en 2016 en finale. Donc ça fait mal. Et elle est dans l'autre partie de Talou, donc elle ne peut le rencontrer qu'en finale.
Mais elle a pris le dessus sur elle depuis.
Elle a pris le dessus. Absolument, absolument. Mais je pense qu'elle a dépassé ce cap-là, mais il y aura peut-être le spectre de Rio qui reviendra dans son esprit si elle l'a vraiment en face d'elle en finale. Et puis il y a la japonaise Tashiro aussi, où là elle l'a battue 2 fois en finale au championnat du monde en 2018 et 2019, et en 2019 au Budokan, et à chaque fois c'est allé au Golden Score, et en 2019 ça avait donné lieu à un combat de 11 minutes. Donc avec la japonaise, ça peut être vraiment sportif jusqu'au bout. Ça peut être stressant, on va dire. Il faudra aussi qu'elle gère cette dimension-là. Mais ce qui lui donne aussi une aura à Clarisse Agbegnénou, c'est son judo spectaculaire, un petit peu comme Amandine Bouchard. Et ce n'est pas toutes les athlètes qui peuvent pratiquer un judo comme ça, explosif. Et je trouve que c'est une énorme publicité, une énorme promotion pour le judo, le judo qu'elle pratique. Et elle est vraiment le pendant féminin de Teddy Riner. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, 5 fois championne du monde, si elle pouvait être championne olympique, ça serait juste fabuleux, ça serait le couronnement d'une carrière.
Est-ce que je peux poser une dernière question à Stéphane ?
Non, je t'en prie, bien sûr.
Justement, parce que Stéphane est spécialiste de judo, et j'aimerais qu'il explique à ceux qui nous écoutent ce qui s'est passé aujourd'hui en finale avec Cizik et pourquoi elle a été disqualifiée avec ce mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est quelque chose qui a étonné, nous expliquer pourquoi justement ce mouvement est dangereux ?
Oui, alors moi, je me suis pris en compétition, un Antsukomake aussi, parce que je me jetais la tête la première sur une projection, et on m'avait expliqué après que c'est pour le protéger, en fait, tout simplement, les athlètes. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je trouve que ça va au-delà même du sport. C'est un message aussi envoyé aux parents qui veulent inscrire leurs enfants au judo étant jeunes. Et le message, c'est que quand on apprend un mouvement, on apprend aussi à ne pas se blesser. Il y a des limites, il y a des barrières qui sont fixées. Et là, en l'occurrence, la barrière, c'est arriver au sol avec pour seul point d'appui la tête. Et ça, c'est juste pas possible, c'est pas concevable parce que c'est extrêmement dangereux. Hein. Et sur le mouvement, en fait, je pense qu'elle aurait pu se dégager un petit peu et essayer, quand elle a vu qu'elle était prise et qu'elle allait au sol, essayer d'aller au contact avec la tête, mais elle a voulu au contraire enrouler et terminer son mouvement. Le seul problème, c'est qu'elle n'avait que la tête pour point d'appui, et elle a ensuite essayé d'insister là-dessus. Donc, c'est les deux choses qui font que c'est un mouvement interdit, et je trouve que ça, c'est logique, entre guillemets, cette disqualification qui peut se produire dans un championnat de France, dans d'autres championnats, dans n'importe quelle compétition. Et ça vaut aussi pour une finale olympique, même si c'est extraordinairement frustrant.
Et la question de Béossien, hein, s'aimait pas la tête, ça s'enroulait, elle a perdu de toute manière.
Mais oui, et c'est ce que lui dit, c'est ce que dit le règlement, justement. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui lui reprochait du point de vue du règlement, c'est qu'elle aurait dû se tourner pour tomber sur le dos. Et en gros, elle aurait dû perdre. C'est un peu comme un essai de pénalité au rugby. Ouais. Ça, vous n'avez pas vraiment marqué, c'est pas un vrai essai. Mais sauf que vous êtes en faute parce que vous avez empêché l'autre de marquer en faisant une manœuvre qui, en plus, est dangereuse d'abord pour vous. Donc, à double titre, on peut comprendre, même si, évidemment, perdre une finale olympique comme ça, quand elle parle de sentiment d'injustice, de son point de vue, on peut très bien le comprendre.
Ouais, c'est, elle a pris un risque, évidemment, mais on comprend bien dans ces moments-là. On espère que ça va passer, mais effectivement, pour elle, c'était d'abord dangereux. Et donc, il fallait en arriver à cette situation-là, c'est sûr, au-delà de l'obstruction qu'elle a pu représenter pour son adversaire.
Merci messieurs pour vos explications et puis pour la projection sur la journée de Clarisse Agbeninou qui nous attend mardi à partir de 5h37. Branchez vos réveils pour vous connecter sur eurosport.fr, allumez la télé sur Eurosport pour suivre tout ça toute la journée avec les commentaires de nos consultants, notamment Frédéric Jossinet. Merci à tous, bonne journée et on se retrouve très vite pour les Jeux Olympiques. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.